Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Peut-on être un homme libre selon la formule de l'apôtre Paul alors qu'on est en prison? Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Samuel Wagner pour tenter de répondre à cette question ou, plus modestement, de donner des pistes de réflexion. Samuel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aumônier à la prison de Villeneuve depuis 3 ans.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Alors, je voulais vous poser déjà ma première question. Vous êtes un jeune pasteur. Et qu'est-ce qui pousse un jeune pasteur comme vous à s'engager dans l'aumônerie des prisons?
Alors, moi, j'ai pas la casquette de pasteur.
D'accord.
Mais je suis aumônier. C'est-à-dire que j'ai un agrément d'aumônier pour la prison de Villeneuve-les-Maglones, donc la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. Et en fait, à la base, bon, pour moi, ça a été vraiment la curiosité. C'est-à-dire que j'ai un ami pasteur qui était aumônier, donc qui faisait les visites en prison. Et j'y suis allé avec lui une première fois, par curiosité, pour voir comment ça se passait. Je dois dire que au départ, c'est vrai que c'est ça peut être assez impressionnant. Et puis au fur et à mesure, à force de rencontrer les détenus, à force de faire connaissance avec eux, bah j'y ai trouvé du plaisir et j'ai trouvé du plaisir à accompagner ces personnes-là. Et donc j'ai décidé de m'investir un peu plus au fur et à mesure du temps.
D'accord. Donc plutôt vous n'avez pas hésité à faire plutôt que de faire de la théologie, ça vous a pas intéressé d'être pasteur dans un groupe, dans une paroisse comme on dit, ou dans un groupe?
Alors c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai trouvé à la prison vraiment pour moi quelque chose qui concrétise ma foi. Et je l'ai trouvé dans cet espace-là. C'est-à-dire que je suis investi effectivement dans mon église locale, mais c'est vrai que j'ai trouvé en prison vraiment le plaisir et le sens de ma foi et de cet appel pastoral que j'ai effectivement en moi, même si j'ai pas fait les démarches pour être pasteur. Mais c'est vrai que à la prison, j'ai trouvé ce créneau-là me correspond. C'est-à-dire que dans mon histoire de vie, dans ce que j'ai traversé, dans même mon histoire, comment j'ai traversé ma vie avec la foi ou sans la foi, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas.
Bien sûr.
Et j'y trouve vraiment pour moi une concrétisation dans la prison, avec les détenus, avec leur chemin de vie, voilà.
Et c'est le même, c'est peut-être une question un petit peu difficile, mais le fondement de votre foi personnelle et le fondement qui vous pousse à aller vers les autres, c'est la même chose, c'est le même rapport à l'écriture, c'est une parole qui vous a mis en marche, c'est...
Je dirais que c'est vraiment pour moi l'expérimentation que j'ai pu faire chez moi,
ouais,
qui me donne envie de le partager aux autres.
D'accord.
C'est-à-dire que pour parler de liberté, je peux dire que j'ai expérimenté une découverte de la liberté à travers la foi chrétienne, à travers la spiritualité chrétienne, et qu'aujourd'hui j'ai à cœur de le partager à d'autres, parce que si ça a fonctionné pour moi, je sais que ça peut fonctionner pour d'autres. Alors bien sûr, les personnes qui sont ouvertes hein, et qui auront envie de d'expérimenter à leur tour cette vision de la vie.
Quand vous parlez de liberté, c'est liberté, libération?
Alors la liberté, c'est vrai que c'est un sujet, c'est un vaste sujet. Je dirais même que c'est un sujet qui a traversé l'humanité.
Oui.
Et que l'humanité est toujours à la recherche de liberté.
Oui.
On peut le voir dans toutes les histoires. Que ce soit qui ont été écrites soit à travers de romans, soit à travers,
ouais,
de films, soit même dans la musique. C'est vraiment une question de la liberté qui a de toute génération, qui l'être humain est en recherche de liberté. De liberté, de libération, donc voilà.
La libération, c'est peut-être plus théologique, c'est peut-être plus, non?
Je dirais que Je sais pas, je dirais que la libération m'amène à la liberté. Oui. C'est parce que je suis libéré que j'expérimente plus de liberté.
D'accord.
Voilà. Après, c'est vrai que bon, en prison, il faut peut-être définir de quelle liberté on parle.
Oui.
Parce qu'en prison, effectivement, bon, on n'a pas une liberté d'agir.
Bien sûr. On
n'a pas une liberté de faire. On n'a pas une liberté d'avoir.
Ouais.
On est privé. On est privé de liberté.
De liberté.
On est privé de liberté.
D'ailleurs, c'est des lieux privatifs de liberté, comme on dit, plutôt que dire prison. Enfin bon.
Tout à fait. Oui. 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 Maintenant, si on parle d'une liberté d'être, c'est-à-dire que je parle plus d'une liberté d'avoir ou d'une liberté de faire, qui peut-être des fois peut être en plus une illusion, c'est-à-dire que la soif d'avoir, elle peut être quelque chose qui aussi
nous
emprisonne et ne s'assouvit jamais.
Ouais.
La liberté de faire aussi, c'est-à-dire que de toute façon, on est toujours contraint dans nos actions, dans tout ce qu'on fait, on est contraint, si on dit que la liberté, c'est je fais ce que je veux, on est toujours contraint, on est toujours limité par les autres, par soi-même, par tout ça. Donc, je parlerai plus d'une liberté d'être, c'est-à-dire qui je suis. Et cette question de savoir qui je suis, pour moi, quand on avance dans ce chemin-là, ben, on avance sur justement ce chemin de libération qui nous amène à expérimenter plus de liberté. Donc, ce travail en prison, ce travail qu'on fait avec les détenus, est plus dans cette question d'une liberté d'être, c'est-à-dire qui je suis, que dans une liberté de faire ou d'avoir quoi.
Et c'est comme ça qu'on peut annoncer l'évangile de la libération à des gens qui sont privés de liberté. Alors
voilà, je pense que
c'est définir ce qui nous rend libre en nous-mêmes.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire que En prison, les détenus sont forcément confrontés à leur vie d'avant, et le fait d'être privé de ces libertés, bah forcément, ils vont chercher autre chose.
Ouais.
Et bien souvent, bah ils expérimentent des choses qu'ils n'ont pas expérimentées.
Ouais.
Et on rencontre beaucoup de gens qui nous disent que effectivement la prison leur a amené ça, leur a amené cette façon de voir les choses différemment, de voir leur vie différemment, de voir leur situation différemment.
Ouais.
On peut rencontrer beaucoup de personnes qui sont qui peuvent être dans des addictions.
Oui.
Comme beaucoup de gens ils sont même qui sont pas en prison. Et le fait d'être privé de liberté quelque part va du coup bah les contraindre aussi dans leurs addictions.
Bien sûr.
Et donc le fait de plus être livré à ces addictions va leur amener aussi cette liberté de se rendre compte qu'ils peuvent être libérés de leurs addictions. Et je pense que c'est le travail de la foi aussi, et que justement ce travail de libération dans le fait d'être libre de ces addictions qui peuvent être des véritables prisons, quoi.
Et alors qu'est-ce que vous leur annoncez à ces gens dans l'évangile? Je ne parle pas de venir le fait de les faire sortir de leur cellule, le fait de rencontrer quelqu'un, mais le message.
Le message, je pense que le message essentiel de la foi chrétienne, c'est d'abord l'amour.
Mmh.
C'est-à-dire que être aimé de Dieu, c'est quelque chose qui, pour moi, change complètement la vie. C'est-à-dire que, justement, dans cette question d'être, qui je suis, est-ce que je suis le fruit du hasard de l'amour de mes parents, ou est-ce que dans le projet de Dieu, je suis inclus dans le projet de Dieu? Est-ce que je suis la volonté de Dieu, c'est-à-dire que vraiment Dieu à un moment m'a pensé, m'a imaginé et m'a créé? Est-ce que je suis vraiment une création de Dieu, ou est-ce que je suis juste le fruit de l'amour de mes parents? Donc je pense que cette vision de qui je suis change déjà beaucoup. L'amour, dans le fait d'être aimé de Dieu, ça change réellement la vie. C'est-à-dire que si je sais que le créateur de l'univers, le créateur de cette terre, a de l'amour et que je suis important pour lui, ça change complètement ma vision de la vie, la vision de qui je suis et la vision du sens de ma vie. Donc, je pense que le premier message, on le trouve là dans l'amour. C'est-à-dire que je peux être aimé, en fait. Je pense qu'on rencontre en prison particulièrement beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance d'être aimées, qui n'ont pas été aimées, que ce soit dans leur famille.
Ils sont descendants en quelque sorte de l'amour de leurs parents, mais il y en a une paire, ils sont plutôt pas descendants de l'amour des parents, ils sont venus.
Voilà, c'est ça, voilà. Exactement, oui. Et bien souvent, c'est des gens qui reproduisent les schémas dans lesquels ils ont été élevés.
Voilà. Ouais. Et alors, est-ce que les exemples de Marie Durand, par exemple, qui était emprisonnée donc par conviction, par prisonnier de conscience, ou des gens comme après Mandela, ou des gens, les prisonniers de conscience comme Amnesty International, par exemple, s'occupe. Est-ce que c'est le même... est-ce que ça peut aider à faire comprendre à vous-même déjà ce message à apporter?
Oui, je pense que dans ces histoires-là, que ce soit pour Marie Durand, que ce soit pour Nelson Mandela ou d'autres personnes.
Alors attendez, pour Marie Durand, je précise pour ceux qui ne le sauraient pas, Marie Durand, c'était donc une jeune femme protestante lors de l'époque des Dragonnades, après la révocation de l'édit de Nantes, qui est restée une cinquantaine d'années en prison parce qu'elle ne voulait pas abjurer sa foi protestante. Voilà.
Donc. C'est ça. Exactement. Et c'est là où, justement, pour moi, on voit cette notion de liberté. C'est-à-dire qu'elle aurait pu, Marie Durand, elle aurait pu renier sa foi et être libérée.
Ah oui.
Elle a quand même passé 30 années de sa vie.
Ah oui, c'est 30, c'est pas 50.
Oui, alors bon, peut-être je me trompe.
De
toute façon, c'est déjà beaucoup trop.
Ouais.
Et donc c'est quelque chose qu'elle a accepté. Parce que je pense qu'elle envisageait qu'elle était libre d'avoir sa foi et que justement elle a préféré garder la liberté de sa conscience et la liberté de garder sa foi plutôt que sa liberté physique.
Oui. Savoir qu'elle venait de se marier, elle a été prise le soir de son mariage, le jour de son mariage, et donc elle a été privée de l'homme qu'elle aimait.
Tout à fait, et puis des plus belles années de sa vie, c'est-à-dire qu'elle était très jeune quand elle a été emprisonnée, et donc c'est littéralement, on pourrait dire, toute sa vie qui a été totalement gâchée à cause de ça. Mais elle a choisi ça, c'est-à-dire que elle avait cette liberté de dire en fait j'ai une conviction et même si on m'enferme, même si on me prive de mes libertés, je vais garder cette conviction. On retrouve ça aussi chez Nelson Mandela qui lui était plutôt prisonnier politique et lui c'est pareil, il a passé environ 30 ans de sa vie en prison, il aurait pu aussi renoncer à son combat et être libéré, mais il a gardé lui aussi la foi dans son combat et a décidé donc de passer ses 30 années en prison, alors qu'en plus lui il y avait des tortures, enfin des humiliations, d'extrêmement dur. Mais disons que voilà, on retrouve dans ces personnes-là le fait d'être enfermé. On peut quand même garder sa conscience, on peut quand même garder son combat, on peut quand même garder son et donc ça demande des sacrifices énormes. C'est-à-dire que moi je me pose la question, comment je réagirais si moi aujourd'hui on m'enfermait à cause de ma foi. Je sais absolument pas comment je serais capable de réagir.
Oui, c'est trop facile de dire j'aurais été résistant.
Quand on est face à la situation, c'est différent.
Alors on va quitter un petit peu les grands comme Mandela, Marie Durand, et on va revenir à Villeneuve. La sociologie dans de la population, donc c'est quoi? Qu'est-ce que, en général, les prisonniers qui sont sous votre, que vous voyez, c'est quel type de prisonniers, pour quel problème ils ont été incarcérés?
Alors nous, donc Villeneuve-les-Maguelone, c'est une maison d'arrêt, c'est-à-dire que c'est en fait les personnes qui sont en attente de jugement.
Ah d'accord.
Donc on est face à tout type de délits, on est face à tout type de personnes. On a un public, donc ça peut vraiment aller dans des courtes peines comme dans des grandes peines. Mais ils sont là en attente de leur jugement, donc une fois qu'ils ont eu leur jugement, Ils sont transférés dans un centre de détention où ils vont purger leur peine. Donc nous, on est vraiment face à des gens qui attendent leur jugement. Et comme je disais, ça peut être des petits délits, donc ils vont prendre des petites peines. Ça peut être des grands délits aussi, où ils vont prendre des plus grandes peines. Donc le public est vraiment large. On a des personnes qui sont des personnes chrétiennes, déjà chrétiennes.
Ouais.
On a d'autres personnes qui ont jamais eu forcément d'expérience avec la foi, qui sont du coup intrigués d'en savoir plus, et comme c'est accessible, ils cherchent à en savoir plus.
Ouais.
Et on a des personnes qui ont pu peut-être vivre dans une famille chrétienne, mais qui ont jamais forcément expérimenté la foi ou mis en œuvre leur foi, mais qui du coup vont profiter de ce temps-là aussi pour mettre
et
en action.
Et donc
leur
dans
foi.
Cela, il y a aussi l'indécision de ce qu'il va y avoir. Ils ne savent pas s'ils vont être condamnés. Ils peuvent espérer ne pas avoir été condamnés, ne pas être condamnés.
Alors oui, il y a toujours cette question-là. Maintenant, nous, en tant qu'aumôniers, c'est vrai que on n'est pas là forcément pour la justice et pour les droits. C'est-à-dire que bon, pour ça, il y a vraiment tout le système judiciaire qui est là pour ça. Nous, on va vraiment, par contre, leur amener. T'es là maintenant.
Ouais.
Même si t'es en attente, même si tu sais pas, et même si t'es contraint, qu'est-ce que tu fais de ce temps-là?
Ouais.
C'est-à-dire que aujourd'hui, t'es détenu. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas profiter de ce temps-là? Et qu'est-ce que tu vas en faire de ce temps-là? Après, bien sûr que nous, on est là aussi pour les aider à supporter leur peine et pour les aider à justement trouver un sens aussi à leur peine et qu'ils utilisent ce temps-là vraiment à bon escient. Et donc, c'est vraiment tout le but de l'aumônerie pour moi de leur amener aussi une nouvelle vision d'eux-mêmes, une nouvelle vision de la vie à travers cette peine qu'ils ont purgée. Et on beaucoup de gens, donc beaucoup de détenus qu'on rencontre, ont ce témoignage qu'ils ont, qu'en trouvant la foi, ils ont vraiment trouvé la liberté aussi.
Et est-ce qu'il n'y a pas des prisonniers qui empêcheraient les autres de venir vers vous? Est-ce que il n'y a pas des tentatives de vous empêcher? Ou d'empêcher les gens de venir vers vous?
Alors, pas à mon sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même dans la maison d'arrêt, en tant qu'aumônier, bon, nous, on est aumôniers protestants, il y a aussi les aumôniers catholiques, il y a les aumôniers musulmans, ouais. Les aumôniers bouddhistes, les aumôniers orthodoxes, donc toute spiritualité, toute religion est représentée. Et il y a un respect, en fait, quand même, pour l'aumônerie en général. C'est-à-dire qu'en tant qu'aumônier, on est quand même respecté. Parce que chaque détenu qui est là savent qu'on fait un travail.
Ouais.
On est bénévole, on donne du temps, on donne.
Vous êtes bénévole.
Ah oui, c'est un travail bénévole, ouais. Et donc ça ils le savent, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'on donne de notre temps et que c'est ça part d'une générosité de notre part. Donc ça il y a une grande reconnaissance en fait pour ça. Que ce soit des détenus qu'on accompagne ou que ce soit des détenus qu'on n'accompagne pas forcément. Donc je pense qu'il y a quand même ce respect en fait de la foi de chacun aussi et de voilà. Maintenant ce qui se passe entre eux, on n'est pas toujours au courant non plus voilà.
Oui. Bon. Et alors vous m'avez parlé de prison mentale. Donc la prison mentale c'est uniquement les prisonniers qui l'ont par rapport à leurs anciennes vies ou est-ce que c'est tout le monde qui a quelque part une prison mentale? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette prison mentale en fait?
Je pense qu'on peut effectivement retrouver des prisons mentales chez tout le monde. Hein.
Oui, vous avez parlé des addictions.
On n'a pas forcément besoin d'être enfermé en prison pour être prisonnier. C'est-à-dire qu'effectivement, les addictions en premier, ce sont pour moi des prisons mentales qui nous empêchent d'être libres.
Bien sûr.
Ça peut être aussi, un travail. Je suis prisonnier d'un travail que j'aime pas, dans lequel je souffre.
Ouais.
Et la souffrance s'accumule et ça m'empêche de vivre, d'être épanoui, de vivre cette liberté. Ça peut être une famille, ça peut être un couple aussi, malheureusement.
Ouais,
hein.
Des fois, on
peut être prisonnier de personnes aussi. Ça peut être des relations toxiques qu'on a. Donc oui, je pense que ça peut être des prisons psychologiques aussi.
Ça peut être aussi le désir d'avoir de l'argent toujours.
Voilà, c'est ça. La culpabilité aussi, c'est une prison. Ça peut être aussi qu'est-ce qu'on m'a dit dans mon enfance. Si on m'a dit que j'étais nul et que j'étais capable de rien et que j'arriverais à rien dans ma vie et que j'ai grandi avec cette vérité-là, j'en ai fait une vérité, donc en fait j'arrive à rien. C'est une prison mentale aussi, c'est-à-dire qu'on m'a conditionné à croire que j'étais nul, alors qu'en fait c'est pas vrai. Et donc ça me prive de cette liberté d'arriver à faire des choses. Donc je pense qu'effectivement la prison est présente chez beaucoup de personnes et qu'on n'a pas besoin de voilà. Donc on peut être effectivement, pour moi je pense qu'on peut vraiment trouver la liberté en prison à travers la foi, à travers ce travail sur l'identité, et de la même manière on peut être des prisonniers tout en étant libre dehors quoi. Maintenant ce travail qu'on fait avec les prisonniers, je pense que c'est vraiment de leur apprendre justement leur valeur en fait, oui. Qui ils sont et qu'ils ont de la valeur, parce que bien souvent c'est des gens qui n'ont aucune valeur pour eux-mêmes, qui n'ont aucune estime d'eux-mêmes, et c'est ça qui les a plus ou moins menés aussi à commettre le délit pour lequel ils sont enfermés.
Ils sont en prison. Alors on va faire une pause musicale. Vous nous avez choisi Too Long in Slavery. C'était bien ça.
Non,
c'est pas ça. Alors,
This is not the end.
Ah bon, alors this is not the end. Ah oui, non, je confonds avec quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi. Bon, alors, dites-nous rapide. Dites-nous.
Alors, c'est une chanson effectivement que j'ai choisie, qui s'appelle donc, alors avec mon accent anglais.
This is not the end
du groupe Gungor, que j'aime particulièrement, et c'est une chanson voilà que j'aime. Donc ce n'est pas la fin, c'est pour moi une façon de refuser la fatalité, c'est-à-dire que quand on est en prison, eh ben il faut avoir cette mentalité là de refuser la fatalité, c'est-à-dire que c'est pas parce que je suis en prison que j'ai raté ma vie, que je suis foutu, que j'arriverai à rien, que voilà.
D'accord. Ben on va écouter. Oui, en fait l'histoire de l'esclavage, c'était une autre émission que j'ai faite il y a un certain temps. Je sais pas, peut-être esclavage, libération,
c'est sûrement en rapport aussi.
C'était ça. Alors, on va écouter This is not the end, et on se retrouve ensuite pour parler des groupes de parole que vous avez donc en prison. Nous reprenons avec donc les groupes de parole, puisque c'est une de vos activités quand vous êtes en prison. Donc, vous faites parler les prisonniers.
Oui,
et alors, vous avez produit des textes. Alors, est-ce que vous pouvez nous en lire quelques-uns, des productions donc, de...
Alors, j'ai donc sur ce thème-là de « Peut-on être un homme libre en prison ?», j'ai effectivement mené deux après-midi en groupe de parole sur ce thème-là. Donc, je leur ai posé plusieurs questions et certains m'ont répondu. Donc, premièrement, la première question, c'était quelle est ta définition de la liberté ? Quelle est ta vision de la liberté ?
Ouais.
Donc, je vais pas vous lire tout ce que j'ai reçu, mais voilà. Par exemple, il y en a un qui a répondu c'est faire ce que je veux, quand je le veux, où je le veux, sans ordre et sans contrainte, vivre comme bon me semble.
Ah oui, là, c'est
alors,
très...
Moi, ça me semble être un peu, un peu réducteur comme vision de la liberté.
On peut comprendre quand on est en prison que...
Tout à fait. Tout à fait. Qu'il y ait cette envie-là. Mais je trouve ça intéressant quand même d'entendre ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette envie de vouloir, d'avancer. Maintenant, j'ai une autre personne qui m'a répondu. Pour moi, la liberté s'acquiert gratuitement à la naissance. Tous les hommes naissent libres. Elle est l'opposition formelle à la captivité ou l'esclavage. On peut être libre de penser, d'agir, de se déplacer, mais aussi libre de faire le mal, de pécher. Dieu nous a créé avec le libre arbitre, la liberté de nos choix, libre de faire bien ou mal. Voilà, c'est encore une façon de voir la liberté et qui est très intéressante. Et ensuite, j'ai demandé quelle est la vision chrétienne de la liberté. Donc, pour toi, voilà, il y a la liberté, mais si tu intègres ta foi aujourd'hui, comment tu vas définir ta liberté ? Donc, je vais vous lire une réponse. Pour moi, elle se résume à cette phrase « Délivre-nous du mal ». Du mal, de nos péchés, il nous rend esclaves, captifs. La parole du Seigneur nous délivre de cette captivité. Nous sommes esclaves du péché, des mauvaises pensées, des addictions, de la peur, de l'anxiété, etc. Toutes des forces ténébreuses qui nous rendent esclaves et agissent en nous avec force. Et l'on ressent comme c'est plus fort que moi.
Ouais.
Alors, délivre-nous du mal et de cette force, suite aux paroles de Jésus.
Mais là, vous avez posé... vous avez dit par rapport à ta foi, donc à la foi du prisonnier. Mais ceux qui n'ont pas la foi, il y en a qui viennent dans ces groupes de parole et qui n'ont pas la foi.
Alors il y en a qui, dans les groupes de parole en général, c'est quand même des personnes qui, on a des cultes qu'on fait le dimanche matin. Mmh. On peut avoir des personnes qui sont juste, qui n'ont pas forcément la foi, qui sont en recherche, alors qui vont venir là parce que ils trouvent quand même quelque chose. Dans le groupe de parole, en général, c'est quand même des gens qui ont la foi et qui ont déjà une démarche où ils acceptent les choses, ils lisent la Bible,
ils prient. Ils l'ont plutôt trouvé ou ils l'avaient déjà ?
Alors, ça dépend vraiment. Il y a des gens qui l'avaient déjà et qui peut-être même redécouvrent une autre façon de le vivre en prison. Et il y a des gens qui l'ont trouvé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui étaient... athées, qui n'avaient pas forcément cette vision de la vie, et qui, à force qu'on passe du temps avec eux, qui étaient intéressés par les discussions qu'on pouvait avoir, il y a quelque chose à un moment dans leur vie qui se déclenche et d'un coup, ils peuvent dire « ça y est, je comprends les choses et je peux dire que ça y est, j'ai la foi ».
Et alors, qu'est-ce qu'ils nous ont produit encore comme...
Alors, est-ce que la notion, la question suivante, c'est est-ce que la notion est impactée par ta foi ? Donc, ma notion de la liberté est impactée par ma foi, car sans elle, l'enfermement en prison aurait suffi à me faire croire que j'étais totalement esclave. Mais ma foi agit en moi et me libère de cette captivité. Elle me permet de me libérer de bien d'autres captivités. Elle me libère peu à peu de ma vie de pécheur, du mensonge, de mes addictions, de mes peurs. En donnant ma vie à Dieu, j'ai confiance. Je n'ai plus peur, je suis libre à l'intérieur ou presque.
Oui, là, c'est intéressant parce que il parle de la captivité de la prison, mais il parle d'autres captivités.
C'est ça.
Donc
c'est ça.
Ouais.
C'est ça. Je pense qu'il y a cette conscience, le fait d'être en prison, il y a cette conscience qu'il y avait des dysfonctionnements déjà dans leur vie, et s'ils sont retrouvés en prison, c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements dans leur vie, dans leur mentalité, dans leur comportement, et ils en prennent conscience. Et je pense que le travail de la foi et le travail de la spiritualité, c'est justement d'amener les personnes à grandir dans cette vision d'eux-mêmes et à prendre conscience de certaines choses et à les accepter surtout, parce que c'est pas toujours facile d'accepter qu'on est addict à telle ou telle chose ou qu'on a tel ou tel problème dans notre vie, quoi. Voilà. Ensuite, question suivante, j'aurais demandé comment expliques-tu ton expérience de la liberté en prison? Donc, c'est justement en prison que j'ai pu me pencher sérieusement sur cette notion de liberté. Et c'est ici en prison que je me sens de plus en plus libre. Grâce à la parole du Seigneur, je me libère un peu plus chaque jour. Dehors, j'étais captif des ténèbres. Ici, je m'en libère. Avec l'aide du Seigneur, en priant, il me libère.
Est-ce que vous n'avez pas le soupçon que c'est la seule façon, quelque part, de s'évader et que quand ils vont ressortir, ils vont laisser tomber tout ça?
Alors, il est évident que en prison, il y a un contexte qui leur permet de vivre ça et que forcément,
oui,
une fois qu'ils seront dehors, bah, le contexte va être totalement différent.
Oui.
Donc, le combat n'est plus le même.
Ouais.
Maintenant, je crois réellement, moi, je crois que de toute façon, la foi se montre par une attitude. C'est-à-dire que je suis témoin que l'attitude de ces personnes qui disent avoir trouvé la foi et il y a un vrai changement chez eux qui est visible par nous, mais qui est visible aussi par on a le témoignage d'une personne qui était connue comme étant un caïd, vraiment un caïd qui avait des clans et tout. Et cette personne, ben, on a pu la baptiser en prison. Elle a vraiment dit trouver la foi et il y a eu un vrai changement chez elle. C'est-à-dire que même les autres prisonniers, même l'administration a dit, mais c'est dingue, ce gars-là a complètement changé. Et donc, on est témoin de ce changement dans la vie des gens. Maintenant, il est évident que dehors, bah, voilà, le combat continue et la foi va prendre une autre dimension une fois qu'ils sont dehors.
Et vous les suivez quand ils sont dehors ou il y a des structures ou alors vous les invitez à rejoindre d'autres églises? Comment ça se passe?
Alors, on n'a pas forcément nous la vocation de les suivre une fois qu'ils sont dehors. Maintenant, on essaye quand même de leur trouver que ce soit une église, que ce soit des personnes, un groupe avec lequel ils vont pouvoir continuer à grandir, parce que c'est important de quand on
oui
quand
de ne
on
pas
a
les
foi,
laisser
de...
quand on
voilà,
voit dans les films à la porte de la prison avec la valise et puis le gars tout seul avec ses valises.
Ouais.
Bon, on se dit là, ça commence le plus difficile finalement.
Ouais, tout à fait, oui. Après, il existe en France et il y a sur Montpellier une association qui s'appelle Wake Up Café qui est vraiment faite pour la réinsertion, pour aider les anciens détenus à se réinsérer. Voilà, maintenant c'est sûr que c'est un combat hein, et il faut c'est à eux après de continuer. Je pense que nous en prison on leur donne les armes. Pour ça, on leur apprend à s'en servir et une fois qu'ils sont dehors, ben, c'est à eux aussi de mettre en action ce qu'ils ont appris. C'est le travail, je pense, de tout être humain. Hein. De toute façon, on avance tous, on a tous un chemin et je pense que la foi, de toute façon, est un chemin sur lequel on avance, sur lequel on grandit. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments plus faciles, il y a des moments plus difficiles.
Donc, et vous avez d'autres témoignages qui sont... poignants ou qui sont
alors
qui
déjà
sont
bah, je peux vous dire qu'on a beaucoup de détenus qu'on a baptisés et que l'engagement du baptême c'est vraiment les personnes qu'on a baptisées, c'est vraiment des personnes qui
à Villeneuve qui ont... là vous en avez baptisé
ouais. Donc bon, on fait ça à notre manière, on a une cruche d'eau, une bassine et
ouais.
Puis on n'a pas le tout le matériel pour faire l'immersion, mais bon.
Oui, parce que vous êtes d'une église évangélique, donc
oui,
dans votre église, vous baptisez par immersion.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui, c'est-à-dire dans une piscine complète.
Voilà,
oui, d'accord.
Ouais. Mais
et là, vous faites ben, comme les réformés, c'est-à-dire un peu d'eau.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
C'est ça. Et donc voilà, il y a vraiment des personnes, leur vie a changé. En général, c'est ces personnes-là qu'on baptise. Parce que il démontre qu'il y a un vrai fruit de la foi. On a aussi une personne qui lui en fait il a trouvé la foi avant de venir en prison.
Ouais.
Et c'est à cause de sa foi qu'il s'est livré en fait, c'est-à-dire
qu'il
s'est rendu lui-même et il a avoué ses délits. parce qu'il se sentait poussé à le faire. C'est-à-dire que ce qu'il explique aujourd'hui, il dit que mais je préfère être en prison et être libéré de ma culpabilité, donc payer ma peine et, ouais. et payer pour ce que j'ai fait, plutôt que d'être dehors et d'être rongé par la culpabilité et la peur de recommencer et la peur de... voilà. Et voilà, pour lui, c'est vraiment la foi, c'est vraiment Dieu qui lui a, qui l'a poussé à faire ça. Donc, je trouve
ça,
je trouve ça intéressant.
Est-ce que quand ils sortiront définitivement, est-ce qu'ils pourraient être visiteurs de prison ou est-ce que l'administration s'y oppose?
Alors, en fait, il y a une des conditions à être aumônier, c'est qu'on peut pas avoir un casier.
Oui.
Donc, une personne qui a un casier, c'est une personne qui avait de la prison, pourra pas
mais
être.
Mais simplement un visiteur de prison.
Après, visiteur, ah oui, je sais pas comment. Ouais. Comment ça
Parce
se
que c'est
passe
des,
donc
des
peut-être
gens qui
ouais.
peuvent inciter les autres
ouais,
à ne
à fait,
pas
ouais.
faire de,
ouais, ouais.
de bêtises.
Oui, ça je sais pas. Alors ouais. les conditions pour être visiteur de prison, je sais pas comment ouais, ouais. comment ça se passe, mais éventuellement oui, c'est sûr que de toute façon
ça fait des témoignages.
Tout à fait, ça fait des témoignages ouais. et le sens de ce qu'ils ont vécu, bah ils peuvent à leur tour le transmettre à d'autres et c'est sûr que c'est très intéressant de pouvoir.
Et alors quand vous faites des baptêmes,
ça.
Donc vous êtes dans une église, vous êtes dans l'église clé. Oui. Nos auditeurs connaissent, puisqu'on a eu déjà Nirina
oui.
qui est venue nous donner son témoignage à un protestant peu en cacher un autre. Et donc, c'est vous baptisez des adultes, vous ne baptisez pas des enfants.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui, oui.
Donc, vos baptêmes sont souvent empreints de solennité avec baptême par immersion. Dans la prison, est-ce que vous m'avez dit les conditions sont différentes. Vous nous avez dit
ouais.
puisque vous faites ça avec une cruche. Bon, est-ce que vous ressentez une émotion différente, une solennité. Voilà, c'était le mot que je cherchais.
Ouais.
Une solennité différente de.
Alors oui, je pense que en fait bon, je pense que déjà
en plus d'une minute.
D'accord.
Bon,
un baptême déjà c'est quelque chose de beau en soi. Quand c'est un prisonnier, c'est pour moi ça vraiment quelque chose d'énorme parce que c'est quand même une personne dont la vie a été gâchée quoi, c'est une personne qui a été enfermée et parce que il pouvait plus être libre dans notre société. Donc c'est vraiment ça prend une dimension qui est quand même extraordinaire quoi.
Eh bien, merci Samuel d'avoir, de nous avoir fait vivre cette rencontre avec les prisonniers parce que nous on est dans le monde libre entre guillemets et c'est un monde qu'on ne connaît pas. Vous les avez fait vivre, vous nous les avez rendus plus proches et pour cela je vous remercie. Je
merci.
Donne rendez-vous à nos auditeurs pour la semaine prochaine. N'oubliez pas vos réactions à un protestant peut en cacher un autre @radiofmplus.org. À la semaine prochaine et merci. Au revoir.
Merci.
Thème et anathème, une émission proposée par Yolande Gounelle.